Pour cette séance du séminaire, la quatrième séance du séminaire, nous avons le plaisir d'accueillir François Potier, qui est directeur de recherche à l'INRIA. Et donc François, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les systèmes de type et l'inférence de type, avec des applications assez diverses, notamment en sécurité informatique. Et puis, en cherchant à typer de plus en plus finement des aspects intéressants des langages fonctionnels et impératifs. Et il a développé aussi beaucoup d'intérêts et des approches nouvelles en vérification déductive et des approches à base de logique de séparation pour divers problèmes. Et donc aujourd'hui, il va nous parler d'une application particulièrement jolie de la logique de séparation et de la vérification déductive, où on essaye de raisonner non plus juste sur l'état final du programme et les valeurs des variables, mais aussi sur le temps d'exécution et la complexité du calcul. Et donc, voilà qui va faire un très très joli contrepoint à tout ce qu'on a pu voir dans le début de ce cours. Donc, merci François.
Merci beaucoup Xavier pour cette invitation et je voudrais aussi commencer par remercier Arthur Charguero, Armaël Guénaud, Glenn Mével et Jacques-Henri Jourdan avec qui j'ai collaboré sur les idées que je vais présenter ici depuis une dizaine d'années environ. Donc dans les cours précédents et dans les exposés précédents, vous avez vu qu'on a beaucoup parlé de vérifier des programmes et les propriétés qu'on a vérifiées, en général, c'était les trois que j'ai mentionné ici, à savoir la sûreté, donc l'absence d'erreurs vraiment graves pendant l'exécution, la correction fonctionnelle, le fait de produire un résultat acceptable, et la terminaison. Mais on peut imaginer beaucoup d'autres propriétés intéressantes ou utiles ou souhaitables. On pourrait citer une myriade de propriétés de sécurité que je n'ai pas essayé de lister ici. On peut penser aussi à l'utilisation de diverses formes de ressources, parce qu'un programme, ça ne s'exécute pas dans le vide, mais ça consomme toute une variété de ressources, parmi lesquelles on peut penser à diverses formes de mémoire, la communication à travers un réseau, l'électricité, ou encore le temps. Et donc c'est sur cette notion de consommation du temps que je vais me focaliser aujourd'hui. Et je l'ai déjà mentionné à l'instant, lorsque j'ai rappelé que Xavier avait parlé de terminaison et de non-terminaison. Et si on veut, la non-terminaison, c'est le cas le plus extrême d'abus de la ressource temps. Si vous ne terminez pas, c'est que, en général, c'est une erreur, c'est que vous avez consommé beaucoup trop longtemps. Et on a vu dans les cours de Xavier que même si décider la non-terminaison, c'est un problème indécidable, en pratique, avec de l'aide du programmeur, on arrive assez facilement à écarter le danger de non-terminaison. Il suffit de demander à celui qui écrit le programme ou à celui qui fait la preuve de préciser un variant pour chaque boucle et pour chaque fonction récursive, et on arrive assez facilement à garantir la terminaison. Donc la terminaison, c'était relativement simple, si on veut, mais ça n'est pas extrêmement satisfaisant parce qu'évidemment, il y a une grande marge entre terminer au bout de quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques siècles. Donc pour certaines applications, on aimerait bien pouvoir donner des garanties plus fortes, plus précises, un peu plus informatives, et donner une borne explicite à l'avance, et dire « je vous garantis que dans un certain délai, on va voir comment on exprime ce délai, dans un certain délai, mon programme va terminer. » Alors, on peut tout de suite imaginer qu'il va y avoir des avantages, des intérêts à cette idée, et puis aussi des difficultés. Donc, pour les présenter rapidement, parmi les attraits, on cherche à éliminer une nouvelle catégorie d'erreurs de programmation que nos preuves ne détectaient pas jusqu'ici. Typiquement, les erreurs qui vont mettre en danger la complexité du code, mais pas sa correction. Donc, ce sont des erreurs relativement rares, si on veut, mais qui arrivent quand même une fois de temps en temps. Et en plus, elles ont d'autant plus de chances d'arriver qu'on se sera lancé dans l'écriture d'algorithmes complexes. Et c'est un peu paradoxal, puisque souvent, si on se lance dans des algorithmes de plus en plus évolués, c'est justement dans l'espoir de gagner en performance. Et en faisant ça, en fait, on court un danger de plus en plus élevé de faire une petite erreur dans un coin qui va compromettre la performance. J'ai déjà vu, par exemple, une bibliothèque que j'avais écrite où on avait tout pensé pour que ça soit rapide. Et puis, dans un petit coin, il y avait une recherche linéaire dans une liste que quelqu'un avait ajoutée un jour sans réfléchir. Et à elle seule, cette petite ligne de programme compromettait l'efficacité de toute la bibliothèque. Une deuxième considération, c'est que ces erreurs, elles donnent aussi lieu à des failles de sécurité. On l'a vu par exemple avec les attaques de déni de service sur Internet contre des serveurs qui employaient des tables de hachage. Si les attaquants choisissent bien les entrées qu'ils vont soumettre au programme, on peut faire dégénérer le temps de calcul, et du coup le serveur n'arrive plus à répondre rapidement aux requêtes des utilisateurs légitimes. Parmi les difficultés de cette approche, évidemment, la difficulté la plus évidente, c'est qu'on n'a pas de prise sur le temps réel de calcul. On a seulement une prise indirecte sur le nombre d'opérations qu'on va demander à la machine d'effectuer. Donc on va pouvoir éventuellement compter les opérations que le programme exige. Ou si on veut être plus précis, on peut sortir le gros manuel du processeur et essayer de compter les cycles qui vont être nécessités par chaque opération. Donc on voit bien que si on se lance dans ce processus, ça ne va pas être très facile. Et puis ça va dépendre, le résultat du compte va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de la machine qu'on utilise, du système mémoire qu'on utilise, du système d'exploitation, du compilateur, du langage de programmation qu'on a choisi. Donc ça a énormément de connaissances à maîtriser, à contrôler pour savoir exactement quel sera le nombre de cycles consommés à l'arrivée. Et donc même si ça, c'est une activité dans laquelle certains se lancent, en particulier dans l'industrie des systèmes critiques embarqués, que ce soit les avions, les fusées, les centrales nucléaires, on a réellement besoin de garanties en millisecondes, en microsecondes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse du W7, le temps d'exécution au pire cas, et là, on parle de temps réel. Mais ce n'est pas ça que je vais considérer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un problème plus facile, si on veut, qui sera déjà suffisamment intéressant en soi. Je vais chercher une mesure plus abstraite de l'efficacité d'un programme, donc ça ne sera pas le temps réel. Et cette mesure, vous la connaissez certainement, c'est la complexité asymptotique. Donc, une idée qui apparaît dans la littérature de l'algorithmique depuis 50 ans environ. On peut distinguer un petit peu deux idées, mais qui sont tellement liées l'une à l'autre que j'ai un petit peu de mal à faire la distinction. La première idée, disons, c'est de compter les opérations seulement à une constante près. Donc au lieu de dire que je fais 13n plus 237 opérations, je dirais qu'à une constante près, à un facteur multiplicatif près, j'en fais grand N. Donc je vais cacher le fait que le facteur multiplicatif c'est 13, et puis je vais cacher aussi la constante 237. Et lorsque je publie cette complexité, grand O de N, c'est une information incomplète, mais ça n'empêche pas les comparaisons entre algorithmes. Vous savez certainement qu'un tri en tant grand O de N log N sera toujours plus rapide qu'un tri en grand O de N carré, à condition d'aller vers des valeurs de n assez grandes. Parce que les constantes cachées dans les grands taux n, on ne les connaît pas. Donc peut-être que le tri en temps quadratique est plus rapide sur des petits tableaux, mais on peut être certain que si on va vers des grands tableaux, le tri en n log n finira un jour par aller plus vite. Donc on perd en information en cachant ces constantes, mais on gagne en robustesse en particulier, parce que je peux ensuite modifier mon code. Si je fais un petit changement dans mon code et que sa complexité devient 9n au lieu de 13n, les clients qui se sont appuyés simplement sur l'information grand O de n n'auront pas à modifier leur raisonnement. Donc on gagne en abstraction, en modularité, et on gagne aussi en facilité de comptage, puisqu'on a, on n'a plus besoin de tout compter en fait. Donc c'est la deuxième idée qui est presque indissociable de la première, c'est que dès l'instant qu'on ne publie pas le nombre exact d'opérations, on n'a plus besoin de les compter toutes. Il suffit d'en compter seulement quelques-unes qui sont représentatives. Par exemple, dans les tris, si vous avez lu un peu de littérature sur les algorithmes de tri, vous voyez que les gens se contentent de compter les comparaisons la plupart du temps, et ils ignorent tout le reste. Et une idée un petit peu plus générale, c'est que dans n'importe quel programme, il suffit en fait de compter les entrées dans une fonction et les entrées dans un corps de boucle. Si vous comptez ces deux événements-là, tout le reste est sans importance en quelque sorte, parce que si vous vous interdisez d'entrer dans une fonction ou d'entrer dans une boucle, alors vous ne pourrez calculer que pendant un temps borné, vous ne pourrez que avancer dans le bloc de base dans lequel vous vous trouvez, et ça ne pourra pas durer éternellement. Ça durera un temps qui est borné par le code source, par une constante qui dépend du code source de votre programme uniquement. Donc ça, c'est le genre d'idée que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais supposer qu'on a inséré dans le code des pseudo-instructions TIC qui font rien, si on veut, mais qui servent à marquer les endroits où on est censé compter une unité de temps ou une opération. On pourra placer donc un tic à l'entrée de chaque fonction et à l'entrée de chaque boucle. C'est une façon raisonnable de faire, mais on pourrait en imaginer d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que le placement des tics est indépendant de leur comptage, en fait. Dans le placement, vous choisissez ce que vous comptez, et ensuite, vous avez une tâche de comptage qui est indépendante de la question de où placer les tics. Avant de terminer cette introduction, je vais parler un tout petit peu d'histoire pour rappeler donc que ces idées sont apparues dans les années 60. Et Hopcroft, qui a eu la médaille Turing en 86 avec Targent, raconte un petit peu comment ça s'est passé. On peut trouver ce texte en ligne, hein, c'est le texte de sa leçon de réception de la médaille Turing. Donc il rappelle que dans les années 60, cette notion n'était pas encore bien répandue, et quand les algorithmiciens ou les implémenteurs essayaient un algorithme, ils le chronométraient en pratique sur une vraie machine et avec des vraies entrées. Et évidemment, quelques années plus tard, lorsque quelqu'un proposait un nouvel algorithme, il allait toujours plus vite que le précédent, parce que les machines et les compilateurs s'étaient améliorés, et par conséquent, ça n'apprenait pas grand-chose en fait. Et Hopcroft raconte également que l'idée de la complexité asymptotique au début a été accueillie avec résistance, c'est-à-dire que les gens ne voyaient pas vraiment à quoi ça allait servir. Et l'un des arguments qui revenait, c'était « mais nos machines s'accélèrent et bientôt elles seront suffisamment rapides pour qu'on n'ait plus à s'inquiéter de cette histoire de complexité ». Et Hopcroft souligne au contraire que c'est exactement l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire que plus les machines sont rapides et plus on va tenter de résoudre des gros problèmes. Et par conséquent, plus c'est important que les algorithmes se comportent bien lorsque la taille des problèmes devient de plus en plus grande. Et à titre d'anecdote, un certain Skiena, qui a écrit une bibliothèque de graphes et qui a écrit un livre d'algorithmique des graphes, raconte qu'il est tombé un peu dans ce piège parce qu'il avait choisi il y a longtemps un algorithme quadratique parce qu'il avait un meilleur facteur constant qu'un autre algorithme un peu différent. Et puis, au début, ça marchait très bien et tout le monde était content. Et puis, au fur et à mesure que les années passaient, les gens ont commencé à demander pourquoi l'algorithme était si lent. Et en fait, c'est ce phénomène que Hopcroft avait prévu, que les gens essayaient des problèmes de plus en plus gros et ça se voyait de plus en plus que l'algorithme se comportait mal et ne passait pas à l'échelle. Et enfin, pour terminer encore avec un petit peu d'histoire, donc Targent, lui aussi, a écrit la même année que Hopcroft un petit peu cette histoire. Donc lui aussi, il souligne pourquoi ils ont choisi d'ignorer les facteurs constants dans le temps d'exécution, et il souligne que non seulement c'est suffisant, mais en plus c'est plus pratique, c'est plus gérable, parce que lorsqu'on n'est pas obligé de tout compter, on s'en sort beaucoup plus facilement. Et enfin, Targent ajoute que parfois ce qui est intéressant, c'est pas seulement de compter le temps d'exécution d'une opération dans un algorithme, mais plutôt le temps d'exécution d'une séquence d'opérations. Et ça, c'est la notion de complexité amortie dont je vais reparler plus loin. Voilà, donc j'ai présenté en gros ce que je veux faire aujourd'hui, ce que je veux vous montrer. Et on pourrait dire que c'est un simple problème de comptage et que ça n'a pas l'air très profond. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est pas un problème très profond. Mais il y a quand même quelques difficultés. Et quelques points qui font que c'est en lien avec ce dont on a parlé dans les séances précédentes, la vérification de programme. D'abord, on veut compter les opérations ici sur un vrai programme écrit dans un langage exécutable et pas sur du pseudo-code, parce qu'on veut avoir une vraie preuve vérifiée par la machine. Donc on va utiliser un système de vérification de programme. Et c'est important parce que la preuve de correction dont on a parlé dans les séances précédentes, elle va pouvoir interagir avec la preuve de complexité. Par exemple, vous allez devoir argumenter qu'un arbre est équilibré pour pouvoir en déduire que la recherche est en temps logarithmique. Donc vous avez besoin d'un invariant qui est établi par la preuve de correction fonctionnelle. De même, plus surprenant peut-être, un argument de possession, comme on en voit en logique de séparation, va pouvoir servir dans les preuves de complexité, on va le voir aujourd'hui. Et puis, surprenant également, peut-être, en sens inverse, il peut aussi y avoir une interaction. C'est-à-dire qu'un argument de complexité va éventuellement pouvoir aider à la preuve de correction, on le verra à la fin, simplement parce que si votre programme est suffisamment lent, il n'atteindra jamais une situation où il pourrait planter. C'est un argument un peu étonnant. Donc voilà tout un spectre de questions qui se soulèvent en pratique lorsqu'on attaque ce problème, et je ne pourrais pas les présenter toutes aujourd'hui, ça ferait trop de choses. Donc je vais me concentrer en fait sur les deux derniers points principalement, c'est-à-dire quelle est la logique de programme qu'on utilise pour raisonner à propos du temps et comment cette logique de programme permet aux arguments de correction et de complexité d'interagir entre eux et quelles sont les règles de raisonnement qu'on utilise et comment on justifie qu'elles sont correctes. Donc je vais parler d'abord de comptage du temps en logique dehors, puisque la logique dehors c'est la plus simple si on veut. Et on va voir qu'avec quelques idées assez simples, on peut écrire des spécifications qui parlent du temps. Et dans la suite, je passerai à la logique de séparation, parce qu'on va s'apercevoir qu'elle a des forces, des atouts particuliers qui permettent de faire des analyses plus intéressantes. Et dans une troisième partie plus technique, j'essaierai de parler d'analyse amortie, et en particulier d'analyse amortie de programmes paresseux, donc qui sont des programmes qui utilisent des suspensions. On verra qu'on a une notion de débit qui est en un certain sens duale de la notion de crédit. Et en tout dernier, si j'arrive jusque-là, donc si je ne suis pas trop lent, je pourrais parler de l'intérêt d'être lent pour éviter certains problèmes. Alors commençons par la logique dehors. Donc la logique dehors, Xavier l'a dit tout à l'heure, en fait, elle est conçue pour garantir une propriété de l'état final d'une exécution. Mais ça n'empêche pas de parler aussi de ce qui se passe pendant l'exécution, à condition que dans votre état, vous incorporiez un historique de ce qui s'est passé. Et tout à l'heure, Xavier ajoutait des variables fantômes, la contribution du thread 1, la contribution du thread 2, pour que dans l'état courant, on ait une notion de qu'est-ce qui s'est passé jusqu'ici. Et là, c'est la même idée. Pour compter le temps, tout simplement, on va introduire une horloge dans l'état courant. Cette horloge, elle va compter, par exemple, elle va décompter le temps, donc elle va partir d'une valeur positive et elle va décompter jusqu'à tomber à zéro. Et quand elle tombera à zéro, c'est qu'on n'aura plus le droit de calculer. Et dans les assertions, dans les préconditions et postconditions, on va pouvoir parler de la valeur actuelle de l'horloge, donc on va pouvoir parler du temps. Donc ça, c'est vraiment une idée toute simple. Et une petite idée qu'on peut ajouter, c'est l'idée que cette pseudo-instruction tick dont je parlais tout à l'heure, j'avais dit pseudo-instruction, donc ça suggérait qu'elle ne faisait rien, mais en fait, on peut lui donner une implémentation où elle fait un petit peu quelque chose, où elle a l'air de faire quelque chose. Elle vérifie qu'il reste du temps à chaque fois qu'on appelle tick, donc elle vérifie que l'horloge est strictement positive. Si oui, elle décrémente l'horloge pour enregistrer le fait qu'on a effectué une opération. Et si jamais il reste plus de temps, elle plante. Alors là, j'ai une instruction qui s'appelle crash, dont je ne donne pas vraiment la définition. Peu importe ce que fait crash, mais l'important, c'est qu'elle fait quelque chose de mal. Par exemple, elle lit à l'adresse nulle en mémoire, ou bien elle fait une division par zéro. Enfin, elle fait quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Et par conséquent, lorsqu'on va être face à l'obligation de prouver que notre programme qui contient des tics ne plante pas, ça va nous obliger à montrer que la branche else n'est jamais empruntée, et que par conséquent, l'horloge grand H ne tombe jamais en dessous de zéro. Donc ce que je viens de faire, c'est une petite réduction, en fait. Je voulais raisonner à propos du temps, et je me suis ramené au problème de raisonner à propos de la correction fonctionnelle. Et pour ça, on a un outil tout près, qui est la logique dehors, en l'occurrence, donc on va pouvoir l'utiliser sans le modifier, à la limite, sans aucune modification. Et cette horloge grand H, alors, elle a un statut un petit peu intéressant parce qu'a priori, ce n'est pas une variable fantôme, au sens où Xavier l'a définie tout à l'heure, parce qu'elle apparaît dans le code de tick. On voit qu'il y a un if qui dépend de la valeur de H. Donc, a priori, ce n'est pas une variable fantôme, mais en fait, a posteriori, si vous faites la preuve que votre programme ne plante pas, alors la branche else ne sera jamais prise. Donc en fait, votre horloge H, elle ne sert à rien, elle est juste décrémentée par l'instruction tick, mais ça ne sert jamais à rien d'utile dans le programme. Donc en fait, a posteriori, si vous arrivez à faire la preuve que votre programme est correct, vous pourrez en déduire que les instructions tick n'ont aucun effet et vous pourrez les effacer. Donc c'est une sorte de code semi-fantôme qui se révèle fantôme une fois qu'on a bien terminé la preuve. Donc ce qu'on peut faire avec cette préparation des choses, c'est qu'on peut prouver que tick satisfait le triplet que j'ai montré ici à l'écran. Dans ce triplet, on a une précondition qui exige, bien sûr, qu'il reste au moins une unité de temps dans la valeur actuelle de l'horloge. Et avec cette précondition, bien sûr, on peut montrer que la branche else n'est pas prise, donc l'instruction crash n'est pas exécutée. Donc tout se passe bien, et à la sortie, la valeur de l'horloge a diminué de 1. Et on peut faire cette preuve, on peut prouver que ce triplet est valide, même si on n'a aucun triplet qui parle de crash, puisque justement l'instruction crash n'est pas exécutée. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut se lancer dans la preuve de programme ordinaire dans lesquels on aura inséré des instructions tick. Donc là, j'ai donné la spécification d'un petit programme ou d'une fonction qui calculerait la somme des éléments d'un tableau. Je suppose ici qu'on a mis un tick au début de la fonction somme, par exemple, et puis un tick dans le corps de la boucle, ce qui fait que la fonction va exécuter n plus un tick pour calculer la somme des éléments d'un tableau de taille n. Et par conséquent, on voit dans la précondition que il faut qu'il reste au moins n plus 1 unité de temps dans l'horloge en entrée, et à la sortie, l'horloge aura été décrémentée de exactement n plus 1. Donc là, on a une spec qui combine correction fonctionnelle et information sur la consommation du temps. Et elle fournit une garantie très forte ici, elle garantit qu'on va consommer exactement n plus 1 unité de temps. Mais en général, on aura plutôt des spécifications où on a une borne supérieure. Donc dans la post-condition, on dira qu'on a consommé au plus n plus 1 unité. Donc on aura aussi un plus grand que dans la post-condition. Et cette logique dehors, donc, elle a le même théorème de sûreté que la logique dehors habituelle, puisqu'en fait c'est la logique dehors habituelle. Donc on sait que le théorème habituel de sûreté dit que si vous pouvez prouver que votre programme est correct, si vous pouvez établir un triplet, alors vous pouvez en déduire que le programme ne plante pas. Et ici, on a une conséquence immédiate de ce résultat qui dit que si vous pouvez prouver un triplet dans lequel la valeur initiale de l'horloge, c'est n, alors vous pouvez exécuter votre programme et vous êtes sûr que quoi qu'il arrive, il n'effectuera pas plus de n instructions tick. Alors ça ne parle pas directement du temps d'exécution du programme, mais d'ailleurs, à la limite, si vous avez oublié d'insérer des ticks dans le code, ce théorème ne vous dit rien. Tout seul, il ne garantit même pas la terminaison du programme. Mais si vous avez bien inséré les tics aux bons endroits, par exemple à l'entrée de chaque fonction et à l'entrée de chaque boucle, alors vous pouvez en déduire que le temps d'exécution, c'est bien n à une constante près qui ne dépend que du code du programme. Voilà, donc ça, c'était un aperçu rapide de ce qu'on peut faire en logique dehors. Et je vais passer maintenant à ce qu'on peut faire en logique de séparation, et j'arriverai à un exemple un peu plus intéressant que ceux que j'ai montrés jusqu'ici, où on verra une analyse amortie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus intéressant en logique de séparation qu'en logique dehors ? Il y a au moins deux choses qui sont plus intéressantes. La première, c'est qu'on a des spécifications qui sont souvent plus concises, c'est ce que Xavier appelait les petites spécifications, celles qui mentionnent que le minimum dans leurs préconditions. Donc ça, c'est bien parce que c'est plus compact et puis c'est plus modulaire, c'est plus local. Si je ne décris que ce qui m'intéresse, ça m'évite de décrire le reste de l'état de la machine. Et ça facilite les preuves. Et puis, il y a aussi cette notion de possession en logique de séparation. On a parlé de possession de la mémoire jusqu'ici, on a parlé de transfert de possession entre un thread et un autre, Et ça, ce sont des notions qui vont pouvoir être utiles aussi lorsqu'on parle de comptage du temps. Donc, comment ça va se passer ? L'idée, c'est de ne plus mentionner l'horloge globale H dans les specs. Cette horloge, elle est partagée par tout le monde et elle a une valeur absolue qui n'est pas très importante, en fait. L'important, quand je veux effectuer un calcul, ce n'est pas la valeur absolue de l'horloge, c'est de savoir qu'il y a suffisamment d'unités restantes dans cette horloge pour que moi, je puisse faire mon petit calcul dans mon coin. Donc on va avoir envie de répartir la possession du temps qui reste à dépenser sans parler de la valeur absolue de l'horloge globale. Et ça, on peut le faire en logique de séparation. Je vais montrer comment, mais sans entrer trop dans les détails, en donnant plus une intuition qu'une véritable définition. L'idée intuitive, c'est d'introduire une nouvelle forme d'assertion qu'on appelle le crédit temps, que je note 1$. Donc ça ressemble à une assertion comme L pointe vers V, donc L pointe vers V, ça vous décrit une case en mémoire et ça vous garantit que vous êtes l'unique possesseur, vous êtes le seul à pouvoir lire ou écrire. Et 1$, ça décrit en fait une unité dans la valeur actuelle de l'horloge grand H. Donc ça vous garantit que cette valeur actuelle, elle n'est pas nulle. Et vous en possédez une unité. Une analogie qu'on peut faire pour comprendre un peu mieux, peut-être, c'est une analogie monétaire, ça marche souvent, et c'est pour ça qu'on appelle ça des créditants, d'ailleurs, ça ressemble un peu à de l'argent. Et il y a un peu l'idée que l'horloge centrale, c'est un peu comme la Banque de France qui contient des lingots d'or. Les lingots d'or, c'est ce qui vous permet réellement de travailler, de dépenser du temps. Et ils sont tous centralisés, donc ils sont dans la banque. Et pour décentraliser les choses, on a émis des billets de banque qu'on a mis en circulation, qui se promènent un peu dans la nature, mais on maintient un invariant qui dit que le nombre de billets de banque en circulation est toujours inférieur ou égal au nombre de lingots d'or qui sont réellement stockés dans la banque. Et parce que cet invariant est maintenu, lorsque quelqu'un possède un billet, il sait qu'il existe un lingot dans la banque centrale qu'on peut mettre en correspondance avec ce billet. Donc c'est bien une preuve d'existence d'un lingot. Et c'est pour ça qu'on donne de la valeur monétaire au billet, hein, c'est parce qu'ils correspondent à quelque chose de concret dans la banque centrale. Donc là, c'est la même idée, et le mot invariant n'est pas là par hasard. En fait, si on voulait définir les créditants dans une logique comme Iris, par exemple, on ferait appel à un invariant d'Iris pour expliquer ce qui est décrit ici informellement. Donc une fois qu'on a eu cette idée, on va pouvoir proposer une spécification pour la fonction tick qui est un peu plus compacte, un peu plus facile à lire. Pour pouvoir exécuter une instruction tick, il vous suffit en fait d'avoir un dollar. Intuitivement, ça semble naturel, puisque ce dollar, son existence garantit que l'horloge a une valeur non nulle. Donc ça vous garantit que vous allez pouvoir exécuter un tick. Mais votre dollar, il va être perdu, parce que l'horloge va être décrémentée. On va le voir juste après. Si j'affiche à nouveau le code de la fonction tick, on voit ce if et cette décrémentation de l'horloge globale. Le fait que vous avez un dollar en main ici, ça vous permet de montrer que H est forcément positif, donc c'est la première branche qui va être prise. Dans cette première branche, l'horloge grand H est décrémentée. Et là, ça nous oblige à abandonner ce dollar que nous avons en main. En gros, on est en train de dire qu'en décrémentant grand H, on détruit un lingot qui existe dans la banque centrale. Par conséquent, on doit aussi détruire le billet qu'on a en main si on veut préserver l'invariant, que le nombre de billets en circulation est plus petit que le nombre de lingots dans la banque. Et c'est pour ça que dans la post-condition, là-haut, on doit avoir true, on ne peut pas avoir un dollar en sortie. Donc le dollar est bien consommé. Et en faisant ça, on a décentralisé le comptage du temps, en fait. Si on compare l'aspect de tick en logique de séparation et l'aspect que j'ai montré tout à l'heure en logique dehors, la première est plus concise, ce qui est déjà une bonne chose, mais surtout, elle ne fait plus référence à la valeur absolue de l'horloge. Elle ne parle que de un petit dollar que nous possédons, sans parler des dollars qui peuvent exister ailleurs en circulation. Et ça, c'est intéressant. Donc ces créditants, ils sont affines, comme les billets de banque, vous pouvez les brûler si ça vous amuse, et ça vous conduira seulement à surestimer le temps de calcul dans votre raisonnement à propos du programme. Par contre, vous ne pouvez pas les dupliquer, bien sûr, ça c'est interdit, parce que là, ça vous conduirait dans l'autre direction, ça vous conduirait à sous-estimer votre temps de calcul réel. On peut les assembler ou les séparer si on veut, avec la conjonction séparante. Et puis, si on applique la règle frame, la règle d'encadrement, on voit en bas de l'écran que si on a trop de dollars, hein, si on a n plus 1 dollar, bah évidemment, on peut séparer en n dollars et 1 dollar. Les n, on les met de côté, ils sont donc conservés. Et le 1 dollar est consommé par tick. Donc, on obtient cette règle qui dit que si vous avez un portefeuille rempli de billets, vous en sortez un à chaque tick et vous pouvez comme ça travailler. Cette logique de séparation, elle a aussi un théorème de sûreté, en fait, qui est à nouveau le théorème de sûreté de la logique de séparation ordinaire, qui dit que si votre programme, si vous avez pu établir qu'un triplet est vrai, alors votre programme ne plante pas. Et ici en particulier, ça veut dire que si vous lancez votre programme en lui donnant au début n créditants, comme il n'y a aucune façon de créer des crédits en cours de route, il ne pourra pas en dépenser plus de n, et du coup, votre programme ne pourra pas effectuer plus de n instructions tick. Donc ça, j'attire votre attention sur le fait que c'est un théorème qui parle d'un programme complet. Donc pour un programme tout entier, on a cet énoncé, et ça montre qu'on a bien une analyse au pire cas. Mais on verra dans les transparents suivants que lorsqu'on lit un triplet qui parle d'un fragment de programme, et pas d'un programme complet, il faut faire un petit peu attention, la lecture du triplet ne sera pas tout à fait la même. On va le voir très bientôt d'ailleurs. Donc ici, j'ai présenté un triplet qui parle à nouveau d'une fonction lSearch, donc qui cherche linéairement un élément dans un tableau. Une spécification typique qu'on pourrait donner, c'est celle-ci, où on voit que c'est la spécification habituelle, que je n'ai pas écrite entièrement d'ailleurs, mais à laquelle on rajoute ici n plus 1 créditant dans la précondition. Donc ça nous garantit que si on donne n plus 1 créditant, alors tout se passera bien. On pourrait vouloir en déduire informellement que la recherche prend au plus n plus 1 étape de temps. En fait, ce n'est pas complètement évident, parce que dans la précondition, on a aussi ce prédicat isArray, et on ne sait jamais, isArray pourrait peut-être cacher lui, dans sa définition d'autres créditants. Ce qu'on voit plus abstraitement ici, sur ce triplet, si j'ai une commande dont la précondition est P étoile N créditant, je ne peux pas en conclure qu'elle s'exécute en O plus N tick, parce que peut-être que dans l'assertion P, il y a d'autres créditants qui ne sont pas forcément visibles dans l'écriture de l'assertion, mais qui pourraient apparaître si on dépliait la définition de P. Ou bien peut-être que P donne accès à un invariant au sens iris ou un invariant au sens invariant de ressources de la logique de séparation, et qu'en accédant à cet invariant, on pourrait y trouver d'autres crédits peut-être. Donc pour une commande prise isolément, on n'a pas vraiment de garantie que les créditants visibles dans sa précondition forment une borne sur son temps d'exécution. Ça, c'est une garantie qu'on a seulement pour les programmes complets. En soi, bon, c'est pas vraiment un problème, il faut juste le garder à l'esprit. Et ça veut dire que pour ces triplets, il faut avoir une sorte de lecture qui correspond à celle qu'on fait lorsqu'on analyse les algorithmes de façon amortie. Ici, typiquement, on va dire que le coût amorti ou le coût apparent de la commande C, c'est N. Mais en fait, elle peut avoir un coût réel qui peut être supérieur si jamais elle trouve des créditants dans P. Ou éventuellement un coût qui pourrait être inférieur à N aussi, parce qu'elle pourrait ne pas consommer tous les crédits qu'on lui a donnés et en garder certains pour plus tard. On va le voir juste après. Alors justement, je vais passer à un exemple qui illustre un peu une utilisation un petit peu intéressante des créditants pour faire une analyse amortie. Donc ici, je m'intéresse à une file d'attente qui est implémentée de façon très simple. Donc une file FIFO dans laquelle on insère des éléments d'un côté et on les extrait de l'autre, implémentée par deux listes chaînées, front et rear. Donc pourquoi deux listes chaînées? Simplement pour qu'on puisse extraire en temps constant d'une des deux listes et puis insérer en temps constant dans l'autre liste. Et le seul moment où on aura un problème, c'est le moment où on devra renverser la liste arrière pour qu'elle devienne la liste avant. Ça va nous coûter cher. Cette structure, elle est très simple. Elle n'a même pas d'état mémoire modifiable. En fait, on peut l'implémenter dans un style purement fonctionnel. Mais ça ne nous empêche pas d'utiliser la logique de séparation pour l'étudier. Ça va quand même être utile parce qu'on va parler de possession des créditants. Le code de la liste, on ne va pas le lire en détail. En fait, j'ai tout dit déjà à l'instant. On insère d'un côté, on extrait de l'autre. Et le point un petit peu douloureux, c'est celui où on appelle cette fonction revappend pour renverser la liste arrière qui devient à ce moment-là la liste avant. Ça, c'est une opération qui coûte un temps linéaire par rapport à la taille de la liste arrière. Il faut imaginer que au début de put, au début de get, j'ai inséré une instruction tick, même si on ne les voit pas sur ce transparent. Et dans revappend aussi, qui est une fonction récursive, on a une instruction tick. Donc revappend va consommer n créditants si la longueur de la liste est n en gros. Alors si on faisait la preuve de ce code en logique de séparation ordinaire, on commencerait par écrire une spécification que j'ai présentée ici. Il n'y a rien de très surprenant. On a des triplets qui disent que put insère un élément à la fin de la liste ici, enfin à la fin de la séquence, et que get extrait le premier élément de la séquence si elle est non vide. Et on a un prédicat isQ qui dit que Q est une file d'attente bien formée qui contient logiquement la séquence d'éléments XS. Et ce prédicat, dans l'aspect, il est abstrait, on ne donne pas sa définition. Par contre, dans la preuve, on donne la définition de isQ pour pouvoir réaliser la preuve. Et ici, on a l'invariant intéressant qui se cache dans la définition de isQ, c'est que la liste logique XS, c'est la concaténation de la liste front et de la liste arrière renversée. Et cet invariant isQ, on peut souligner ici qu'il est duplicable parce qu'il ne parle pas de possession du tout, ni possession de mémoire, ni possession de crédit temps, ni rien. Donc il implique deux copies de lui-même, c'est ce qu'on appelle être duplicable. Et ça veut dire que deux acteurs indépendants peuvent utiliser une même file en même temps. On peut avoir par exemple deux threads qui utilisent la même file, ça ne pose pas de problème. Lorsqu'on introduit les crédits temps pour essayer de raisonner sur la complexité de ce code, si on le fait de façon un petit peu naïve et pessimiste, on va voir que put coûte 1, parce que j'ai inséré un tick au début de la fonction put, et de même get coûte au moins 1 pour la même raison. Et puis en plus, comme il y a parfois un cas où on appelle rev append et où on va consommer n crédits, on est un peu obligé d'être pessimiste ici, de prévoir le pire cas et de demander au client de nous fournir n plus 1 créditant dans la précondition de get. Et on peut faire cette preuve, enfin on peut prouver que cette spécification est satisfaite par le code, mais elle est relativement pessimiste parce qu'elle nous dit que get coûte un temps linéaire, alors qu'en réalité ça n'arrive pas si souvent. Cet événement, le moment où il faut renverser la liste arrière pour qu'elle devienne la liste avant, ça n'arrive qu'une fois de temps en temps, et on aimerait bien pouvoir s'appuyer là-dessus pour dire que globalement, lorsqu'on effectue une séquence d'opérations, le coût de la séquence n'est pas si élevé que ça. Donc ça, c'est l'idée de l'analyse amortie qui remonte à Targent dans les années 80. J'imagine que vous la connaissez, hein. Elle se décrit simplement, cette idée, c'est simplement augmenter le coût apparent de certaines opérations. Donc, en logique de séparation avec crédit temps, ça va vouloir dire demander au client plus de crédit temps qu'on a réellement besoin. Et comme ça, on va économiser, on va remplir un petit bas de laine en quelque sorte, et puis le jour où on aura un coup dur, c'est-à-dire le jour où on devra appeler rev append, on dépensera le contenu du bas de laine pour s'en sortir. Donc pour put, par exemple, on va demander 2 crédits à chaque appel à put au lieu de 1. Donc on va pouvoir mettre un crédit de côté à chaque fois, et on va donc avoir en permanence n crédits sous la main, où n est le nombre d'éléments qui existent actuellement dans la file d'attente. Et comme ça, si jamais on tombe un jour sur un appel à rev append, il a un coût n et on a justement n crédits sous la main, donc on les dépense, et on arrive à couvrir le coût de l'appel sans avoir dû faire apparaître dans la précondition de get n crédits. Mais pour faire ça, il faut que notre prédicat isQ possède des crédits temps. Et c'est là que l'idée qu'on peut posséder des crédits devient vraiment utile, et c'est ça qu'on ne pouvait pas faire en logique dehors tout à l'heure. Donc pour montrer rapidement ce qui se passe ici, l'invariant isQ est modifié. En plus de l'affirmation précédente, on va rajouter la possession de longueur de XS créditant. Et ensuite, tout va se dérouler facilement. On adapte la preuve. Dans put, on a augmenté le coût apparent de 1, donc on demande 2 crédits au lieu d'un. Et dans get, miracle, on demande un seul crédit à chaque fois. Et ça suffit à faire fonctionner les choses, puisque le bas de laine là-haut qui est caché dans isQ suffit à payer les appels à rev append qui se produisent une fois de temps en temps. Donc on arrive à avoir une complexité amortie qui est constante, c'est-à-dire que dans l'aspect qu'on publie, le coût apparent est de 1 ou de 2 pour get et put, même si le coût réel, une fois de temps en temps, est supérieur. Donc ça, c'est joli. Il y a un petit danger quand même que Targent soulignait bien à l'époque, c'est qu'il faut faire attention à ne pas utiliser une structure de façon non linéaire, sinon cette analyse n'a pas de sens. Ici, j'ai un petit bout de code où une certaine file d'attente Q1 est utilisée 2 fois. Je fais 2 fois get sur Q1. Si je n'ai pas de chance, la file d'attente Q1, elle est peut-être justement dans l'état où la liste front est vide et la liste rear est pleine. Donc chacun des deux appels à get sur Q1 va exiger un renversement, un appel à rev append. Et je ne pourrai pas payer ces deux appels. En gros, je vais dépenser mon bas de laine dès le premier appel à get Q1, et au deuxième appel, je n'aurai plus rien. Donc je ne pourrai pas vérifier ce code. Et comment ça va se voir en logique de séparation avec crédit temps? Ben en fait, la logique va nous empêcher de prouver que ce code est correct, parce que le prédicat isQ n'est plus duplicable. Maintenant que j'ai rajouté dedans des crédits temps, c'est ce qu'on voyait sur le transparent précédent là. Comme j'ai rajouté ici ce $longueur de XS dans la définition de isQ, Mon prédicat IsQ n'est plus duplicable. Les créditants étant non duplicables, IsQ hérite de cette propriété. Donc maintenant, IsQ est affine et ça veut dire que je ne peux plus avoir deux acteurs indépendants qui utilisent la même file. Et je ne peux plus utiliser deux fois la même file, en fait, ici, ce morceau de code ne sera pas vérifiable. Donc l'analyse amortie sur cet exemple, elle fonctionne, mais elle m'oblige à renoncer au partage de la structure. Je perds une propriété que j'avais avant, le fait qu'on pouvait dupliquer isQ. Et ça illustre un petit peu même un problème général, qui est que parfois on a plusieurs spécifications différentes pour un même morceau de code, surtout lorsqu'on introduit cette notion de complexité dans les specs. On risque d'avoir différentes spécifications qui décrivent différentes façons d'expliquer la complexité du code. Et ça peut poser problème parce que différents clients auront besoin de différentes analyses de complexité potentiellement. Ça m'est arrivé par exemple, avec Arthur Charguero, on a écrit un article sur l'analyse de complexité d'Union Find. On était content d'avoir réussi à montrer que la complexité c'est alpha de n, complexité amortie. Et puis on est tombé ensuite sur un article qui disait « Dans ce scénario d'utilisation précis, Union Find en fait ne coûte que O de 1 par opération. » Et on était bien ennuyés parce que nous, on n'avait pas fait cette preuve. La preuve qu'on avait faite ne s'appliquait pas pour ce client particulier. Donc ça pose un problème d'ingénierie et de modularité qui n'existe pas lorsqu'on fait que de la preuve ordinaire, entre guillemets. Comme on a des specs plus riches, on a plus de specs incomparables et plus de mal à choisir la bonne spec. Alors, ceci dit, dans certains cas, on peut quand même réconcilier les specs. Et là, on a un joli exemple de ça que je voudrais vous montrer, qui est un petit peu extraordinaire. Je pense que ce n'est pas une situation très courante, mais il se trouve que dans ce cas précis, on va pouvoir modifier le code de telle manière qu'on arrive à la fois à avoir une spec amortie où on a une complexité O de 1 pour les deux opérations, et en même temps, on va pouvoir conserver le partage, la possibilité de dupliquer le prédicat isQ. Et pour faire ça, on va emprunter des idées à différents auteurs, Okazaki Danielson en particulier. Donc Okazaki, il a introduit cette idée que, puisque le problème vient du fait qu'on a une opération coûteuse qui est répétée, le RevAppend qui risque de se produire plusieurs fois, c'est lui qui nous empêche de partager la file d'attente. Pour éviter ce problème, on pourrait songer à utiliser la mémoisation. Donc, la mémoisation, c'est mémoriser le résultat d'un calcul coûteux pour ne pas devoir le répéter à l'avenir. Donc on a l'impression a priori que la mémoisation, ça aide à gagner du temps et que peut-être ça va nous servir ici. Pour rappeler en un transparent de quoi il s'agit, dans la suite, je vais parler de suspension. Ce sont des structures de données très simples. En gros, c'est juste une case mémoire modifiable dans laquelle on stocke soit une description d'un calcul qui n'a pas encore été effectué, soit le résultat de ce calcul. En CAMEL, ça se présente sous forme de quelques fonctions, deux fonctions, fromFun pour créer une suspension à partir d'une fonction de type unit-a qui décrit le calcul à effectuer, et puis force qui va prendre une suspension et nous donner son résultat. Donc, l'idée, c'est qu'on peut appeler force autant de fois qu'on veut. La première fois qu'on l'appelle, le calcul sera réellement effectué et il sera mémorisé pour les fois suivantes. Donc si vous appelez force deux fois, trois fois, quatre fois, à chaque fois, on se contentera de vous renvoyer immédiatement le résultat qui aura déjà été calculé. Donc les appels, au-delà du premier appel à force, chaque appel ne coûte que 1. Et c'est ça l'intérêt des suspensions. Toutefois, introduire des suspensions dans la file d'attente, vous pouvez essayer. Moi, j'ai essayé aussi au début sans avoir bien étudié Okazaki, et on s'en sort pas. Il n'y a aucun moyen intelligent. Enfin, disons, pour des gens moins intelligents qu'Okazaki, il est très difficile de comprendre comment utiliser les suspensions intelligemment pour accélérer ce code. Parce qu'en fait, évidemment, si vous créez votre suspension trop tard, ça ne sert à rien. Si on vous dit faites-moi un gros calcul et vous dites « Ah, je vais créer une suspension », bah oui, mais c'est trop tard. Le résultat, il le faut maintenant. Vous pouvez toujours créer une suspension, mais vous allez quand même devoir faire le calcul. Et ça va coûter. Donc, ce que dit Okazaki, c'est qu'il faut créer la suspension suffisamment à l'avance, et il faut la partager entre suffisamment de gens pour qu'ensuite son résultat soit réutilisé suffisamment de fois, sinon ça ne sert à rien. Si vous créez une suspension mais que son résultat n'est utilisé qu'une fois, vous n'avez rien gagné. Donc Okazaki, son idée, c'est de construire la suspension qui décrit le renversement de la liste arrière assez longtemps à l'avance. Et pour ça, il va imposer un invariant qu'on n'avait pas encore dans la version précédente du code, c'est que la liste arrière doit être pas trop longue. Donc, il va imposer qu'elle soit pas plus longue que la liste avant. Ce qui veut dire que lorsqu'on verra qu'elle commence à devenir trop longue, là, on programmera son renversement. On construira un calcul suspendu qui décrit le renversement de la liste arrière. Donc, ça s'appelle la file du banquier, justement, parce qu'on compte un peu les crédits ou les débits, comme on va le voir, pour mesurer la complexité de ce code. Je vais montrer très rapidement le code en soulignant les points intéressants. Le premier point, c'est qu'on a toujours une liste avant et une liste arrière, mais la liste avant devient paresseuse, ce qui veut dire que chaque élément de la liste est en fait caché derrière une suspension, et il va être calculé seulement à la demande. Donc ça, c'est la liste avant uniquement. La liste arrière reste une liste ordinaire. Et puis on mémorise deux champs, lenf et lenr, qui nous permettent de savoir facilement si l'invariant est maintenu ou pas. Le code ne change pas, sauf qu'on rajoute deux appels à une petite fonction check qui va vérifier que l'invariant est bien maintenu. Et cette fonction check, la voici. Elle sert donc lorsqu'on risque de violer l'invariant, on vérifie si la liste avant reste bien plus longue que la liste arrière. Si oui, tout va bien, il n'y a rien à faire. Mais si jamais ça n'est pas le cas, là c'est le moment de construire une suspension qui va programmer le renversement de la liste arrière. Donc là c'est pas très apparent de la façon dont le code est écrit, mais en fait la fonction rev et la fonction plus, ce sont des fonctions qui renvoient des listes paresseuses. Donc en fait elles construisent des suspensions quand on les appelle. Et là cette suspension rever, c'est elle qui coûte cher. Le jour où on la forcera, ça coûtera n. Et l'argument qu'on peut faire, qui apparaît en bas du transparent, c'est que cette suspension coûteuse, rever, elle ne sera forcée que lorsqu'on aura consommé un par un tous les éléments qui apparaissent dans la liste F actuelle. Et comme ils sont au nombre de n, en fait, la suspension rever coûte n, et elle ne sera consultée, elle ne sera forcée que dans n étapes. Donc en fait, son coût est de 1 par élément que vous pourrez extraire de la file. Alors je ne sais pas si vous y croyez, mais vous ne devriez pas, parce que l'argument que je viens de faire est trop informel. En tout cas, ce n'est pas une preuve suffisamment précise pour une machine, et je n'ai pas clairement expliqué quelles sont les règles de raisonnement que j'utilise. Là, je suis surtout en train d'agiter les mains. Donc dans la suite, je vais essayer de vous montrer un petit peu quelles sont les règles de raisonnement qu'on peut utiliser. En repartant d'Okazaki, parce que Okazaki, lui, a expliqué clairement en anglais, de façon informelle, quelles règles il utilisait. Et un point très important, c'est qu'il autorise le partage des suspensions. Donc dans tout ça, on a le droit d'utiliser plusieurs fois une même suspension, et c'est même essentiel, sinon il n'y aurait pas de gain d'efficacité. L'idée clé d'Okazaki, c'est de ne pas penser en termes de crédit, qui serait la possession d'une permission à dépenser du temps, mais à penser au contraire de façon inverse en termes de dettes, il appelle ça des débits. Et la raison pour laquelle c'est essentiel de penser en ces termes-là, c'est qu'on ne peut pas dupliquer un crédit. Je l'ai dit avant, c'est incorrect, ça revient à sous-estimer votre temps de calcul. Par contre, on peut dupliquer une dette. Si vous dupliquez une dette, ça veut dire que vous devrez payer plus que ce que vous auriez dû payer. Ça vous conduit à surestimer votre temps de calcul dans l'analyse du programme. Donc si vous calculez tout en termes de dette, alors vous n'avez pas de restriction d'affinité. Vous pouvez dupliquer votre prédicat isQ, par exemple. Vous pouvez partager vos suspensions et tout ira bien. Donc Okazaki, il pense en termes de débit. À chaque suspension, il va associer un débit qui est intuitivement combien il reste à payer avant d'avoir le droit de forcer cette suspension. Et il va autoriser à payer en plusieurs fois en plus. On va voir comment. Donc c'est pas forcément le coût réel de la suspension, le débit, c'est plutôt le coût résiduel, puisqu'on a le droit de payer en plusieurs fois. Et le débit, donc, c'est ce qui reste à payer avant de pouvoir forcer. Un peu plus formel, une dizaine d'années plus tard, Danielsson, un chercheur suédois, a proposé une façon de formaliser ça sous forme d'un système de type. Je vais pas trop l'expliquer en détail, mais en intransparent, ça ressemble à ça. On a un type thunk pour les suspensions qui fait apparaître le type du résultat, petit a, et puis surtout, petit n, c'est le débit, c'est la dette qui est associée à cette suspension. Et Danielson propose les opérations suivantes pour compter les débits. Ici, on a return, tick et bind qui vont ensemble moralement. On voit que return, c'est la séquence d'instruction vide, elle coûte 0. Bind, c'est l'opération qui vous permet de construire une séquence d'instruction. Et on voit qu'elle fait la somme des dettes associées. Et puis tick, on voit qu'il ajoute 1 à votre dette. Donc avec ces trois opérations, vous pouvez décrire une séquence d'instruction et vous aurez le comptage des ticks qui se trouvent à l'intérieur. En gros, c'est tout ce que ça dit. Wait vous, ne fait rien en fait, mais vous permet de surestimer une dette en la remplaçant par une dette supérieure. Et enfin, la seule opération qui est un petit peu subtile et intéressante, c'est pay, qui vous permet de payer une dette en plusieurs fois. En gros, ça dit que si vous avez une dette n, alors vous pouvez la séparer en deux morceaux, une dette m et une dette n-m, et ça vous autorisera à payer en plusieurs fois. Je vais revenir sur cette idée dans la suite où on verra comment ça se présente en logique de séparation. Donc justement, ce que je voudrais faire, c'est traduire ça en logique de séparation, parce que Danielson, lui, il a prouvé que son système était correct, mais c'est un système un peu à part avec une preuve de correction dédiée, et ça ne rentre pas dans le cadre d'une logique de programme un peu plus standard. Là, j'aimerais bien faire rentrer ces idées dans le cadre de la logique de séparation standard avec créditant, parce que à la fois, ça expliquera pourquoi les débits sont corrects, et en même temps, ça veut dire qu'on aura un système unifié dans lequel on pourra à la fois faire des preuves à base de crédit et des preuves à base de débit. Dans la suite, je vais présenter un petit peu les règles de raisonnement dont on aurait besoin. Je ne vais pas montrer pourquoi elles sont correctes. Et d'ailleurs, il faut que je soulève un grain de sel, c'est que je me suis rendu compte Glenn Mevel plutôt m'a fait remarquer qu'une partie des règles que j'avais écrites là n'avait pas l'air correcte, ou en tout cas, la preuve ne marche pas. Donc, on a prouvé une partie de ces règles en coq, mais pas toutes. Et il y en a quelques-unes qui sont sujettes à caution. Néanmoins, je pense qu'elles sont moralement correctes, et on verra si on arrive à prouver qu'elles sont vraiment correctes. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un prédicat isTunk, qui dit qu'on a une suspension bien formée. Et puis ce prédicat, il fait apparaître petit n, qui est la dette associée à la suspension. Et puis phi, c'est une post-condition. Phi, c'est une assertion dans logique de séparation, et qui dit le jour où vous forcerez cette suspension, vous obtiendrez une valeur v qui satisfait phi. On veut que isTunk soit duplicable, j'ai déjà dit pourquoi. Et puis, il nous faut des règles de raisonnement et puis des triplets pour les deux opérations qui créent une suspension et qui forcent une suspension. Ici, on a le triplet qui décrit la construction d'une suspension. Et ce que ça dit en gros, c'est si vous avez un calcul qui coûte n crédits le jour où vous l'effectuez réellement, alors vous pouvez créer une suspension et ça vous donne une suspension avec une dette n. En plus, il faut payer 1 au passage pour la création de la suspension elle-même. L'opération force, elle est amusante parce qu'elle exige que la dette soit nulle. Donc, on voit dans sa précondition un isTunk de 0. Donc ça veut dire que vous ne pouvez forcer, vous ne pouvez obtenir le résultat que si vous avez payé, si vous avez réglé votre dette. Et puis en plus, on a cette condition de bord qui dit que phi doit être duplicable parce que comme on a le droit de forcer autant de fois qu'on veut, à chaque fois, on obtiendra la même valeur V en résultat, et on veut pouvoir utiliser le fait que V satisfait phi. Donc il faut que cette propriété phi de V soit duplicable, sinon ça ne serait pas correct. Et ensuite, on a une série de règles de raisonnement qui sont purement logiques et qui ne correspondent à rien à l'exécution, mais qui correspondent à des jeux de comptage de débit et de crédit. On peut surestimer une dette, bien sûr, donc remplacer N1 par un N2 plus grand. On a une règle de conséquence, dont j'espère qu'elle est vraie, qui est intéressante, qui dit que si vous avez une suspension qui promet phi1 et si vous savez que phi1 implique phi2, alors vous avez en fait une suspension qui promet phi2. Et elle est très puissante, cette règle-là, parce qu'on peut en déduire une règle de transmission qui ressemble un peu à la règle que montrait Xavier tout à l'heure à propos des WP. Si vous avez une assertion grand P en dehors d'une suspension, vous pouvez la faire rentrer à l'intérieur. En gros, ça veut dire que si P est vrai maintenant, alors P sera vrai le jour où la suspension sera forcée. En gros, vous transmettez P à la personne qui va forcer la suspension. Et comme P, ça peut être des crédits ici, il n'y a pas de restriction qui dit que P doit être duplicable. Donc P peut être des crédits, et ça veut dire que vous pouvez transmettre des crédits vers l'avenir, en quelque sorte. Et il y a encore d'autres règles qu'on peut imaginer. Il y a la règle Pay, qui est adaptée de Danielson, qui dit que si vous avez K crédits sous la main, et si vous avez une dette N, alors vous pouvez réduire votre dette, et la même suspension aura un coût apparent qui sera seulement N-K. Et inversement, vous pouvez aussi emprunter, si ça vous amuse de faire grossir votre dette, vous pouvez. Donc si vous avez une dette N, vous pouvez la changer en N plus K. Et en contrepartie, vous ferez apparaître K crédit le jour où votre dette sera remboursée. Donc tout ça, ce sont des jeux de comptage. On voit un petit peu la richesse des différentes façons de compter qu'on peut inventer. Et ces jeux vont servir dans des preuves de programme. En particulier ici, ce qu'on obtient, en combinant deux des règles que je viens de montrer, on obtient que lorsqu'on a une suspension qui produit une suspension, chacune a sa dette, M pour la première, N pour la deuxième, on peut en fait déplacer une partie de la dette, c'est une conséquence des règles que je viens de montrer, une partie de la dette associée à la deuxième suspension peut être transportée vers la première. Et ça veut dire qu'on anticipe la dette en faisant ça, on s'oblige à rembourser plus tôt. Donc c'est correct aussi, et c'est utilisé par Danielson et Okazaki dans leurs analyses de la file du banquier, à laquelle je vais pouvoir revenir rapidement. Si je reviens à ce moment où on essaye de justifier l'opération F++ rêve R, il se trouve qu'en ce point du code, la liste paresseuse F elle a une longueur N, et toutes les suspensions qui sont dedans ont un coût nul, un débit nul, parce qu'on a déjà remboursé. Et par contre, la suspension rêve R, elle a un coût N, un débit N. Et grâce à la règle qu'on vient de voir d'anticipation de la dette, on va pouvoir prendre cette dette N qui se trouve sur la dernière suspension et on va pouvoir la répartir sur toutes les suspensions précédentes pour arriver à avoir une dette 1 sur chaque élément de la liste obtenue. Et c'est comme ça qu'on va arriver ensuite à justifier que get coûte bien 1. Et on arrive à une spec. Alors celle-là, je ne l'ai pas prouvée en coq et c'est là que c'est un peu problème ouvert de savoir si elle est vraiment démontrable ou pas. Mais j'espère qu'on peut arriver à obtenir ce résultat où on a à la fois isQ duplicable et un coût amorti constant pour les différentes opérations. Peut-être que Jacques-Henri vous racontera un peu la semaine prochaine comment on peut construire les funks en logique de séparation, puisque là j'ai montré un tas de règles sans vraiment les justifier. On sait justifier au moins une partie des règles que j'ai montrées en coq, mais pas toutes encore. Je voulais parler rapidement de ça, mais je vais le sauter. Vous le verrez dans les transparents. C'est simplement l'idée de renverser la flèche du temps pour parler du temps passé au lieu du temps futur. Et on arrive à cette idée que si on peut montrer qu'un programme est lent, alors on peut montrer que des échecs ne se produiront jamais, ou du moins pas dans un temps raisonnable. Et ça peut servir éventuellement à montrer l'absence de débordement entier, par exemple. Donc ça, c'est une idée que j'ai empruntée à Jean-Christophe Filiatre et Martin Clochard et Andrei Paskevitch, et que j'ai retranscrit dans le cadre de la logique de séparation avec crédit temps. Voilà, donc j'arrive à la fin de cet exposé. Pour conclure, en gros, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle, mais la mauvaise, vous la connaissez déjà, c'est que vérifier des programmes, c'est difficile, et ça demande toute une floraison de concepts et d'outils pointus. Mais la bonne nouvelle, c'est que raisonner à propos du temps, c'est pas forcément beaucoup plus difficile. Comme on l'a vu là, ça se ramène en fait à raisonner à propos de la correction fonctionnelle, et on peut réutiliser tous les outils qu'on connaît pour raisonner en fait à la fois à propos du temps et à propos de la correction fonctionnelle. On peut faire une seule preuve qui parle de ces deux aspects en même temps et qui les marie. Voilà, je terminerai avec ce transparent de direction future possible, hein, puisque actuellement on ne sait pas encore si ces idées sont viables à grande échelle, et puis on aimerait les automatiser, les appliquer à des programmes plus difficiles, éventuellement dans des domaines différents aussi, comme la blockchain, où c'est particulièrement important de contrôler la consommation en temps des programmes. Voilà, je vous remercie.